Hola, buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec un parti qui veut jouer les troubles faits en Turquie, les énergies vertes qui ne créent pas assez d'emplois en Europe, des cours de défense dans les écoles estoniennes, mais tout de suite un conte de fées danois.
The Psyche. A large star beams in the dawn of morning in the red sky, the clearest star of the morning. Its rays tremble upon the white wall as if they wish to write down and relate the scenes which they had witnessed during many centuries. Listen to one of these stories.
La Psyché n'est sans doute pas le conte le plus populaire de l'écrivain danois Hans Christian Andersen, plus connu pour sa princesse au petit pois, sa petite sirène et sa marchande d'allumettes. Il n'empêche, c'est bien ce conte qui fait la une en ce moment au Danemark, Sungshim Courrier.
Il était une fois sur l'île de Lolland, à plus d'une centaine de kilomètres au sud de Copenhague, un jeune noble appelé Christopher Knut. À la mort de son père en 2013, lui et son épouse Stéphanie héritent d'un manoir. Un jour, alors que Christopher fait du rangement dans les archives de son père, il tombe sur un ouvrage qui retient particulièrement son attention. Dans ses mains, quelques feuilles de papier jaunies par le temps, sur lesquelles court une écriture à l'encre noire. Il parcourt le texte et le reconnaît, parce que c'est un conte qui a bercé beaucoup de Danois, celui de la Psyché de Andersen. L'histoire raconte les tourments d'un talentueux sculpteur qui se fait moine à cause d'un amour impossible. Il s'agit d'une réflexion sur la vie, sur la mortalité, la postérité, mais aussi sur l'idéalisme. Christopher parcourt le précieux document et constate que ce dernier contient des modifications et des corrections de l'auteur. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Se pourrait-il que ce document soit authentique? Pour en être sûr, il décide de faire venir deux experts du célèbre écrivain. L'événement est de taille, on se presse au manoir, même les caméras des médias de la région sont présentes. Les experts gantés de blanc soulèvent délicatement le tissu immaculé et tournent la première page. L'assistance retient son souffle. Aucun doute possible, ils reconnaissent immédiatement les courbes de l'écriture. C'est lui, disent-ils, il se penche encore tout ému et découvre une date et une signature. Copenhague, 1861, Hans Christian Andersen. L'arrivée du manuscrit au manoir reste pour l'heure encore mystérieuse, mais ce qui est certain, c'est que le comte Christopher Knut devient le propriétaire légitime du manuscrit. Il ne sait pas encore quel destin il lui réserve, pour l'instant il envisage simplement de le mettre dans un coffre-fort.
Peut-être un tournant en perspective dans la vie politique turque à l'issue des élections législatives de dimanche prochain. Alors que le parti au pouvoir depuis 2002, l'AKP, espère bien emporter un quatrième mandat, une formation inédite dans l'histoire politique de ce pays vient jouer les troubles faits, le HDP, ou Parti démocratique du peuple. Issu du mouvement politique kurde, le HDP veut non seulement séduire une large part de l'électorat kurde, mais aussi rassembler les déçus de l'AKP et des partis d'opposition traditionnels. Même s'il représente à peu près 10% des électeurs, le HDP est toutefois soumis à la règle du seuil électoral. Explication d'Anne Andauer qui est allée à la rencontre des militants du HDP.
Le micro passe de main en main entre une vingtaine de femmes assises sur des chaises en plastique, en cercle, au milieu d'un parc d'Istanbul. Trois candidates du HDP, le Parti démocratique des peuples, répondent aux questions des participantes pendant qu'un jeune homme est chargé de servir le thé. Un peu plus loin, un autre membre du parti s'improvise « babysitter ». La scène ne surprend pas Filiz Kesteredioğlu, l'une des trois candidates. Cette féministe de renom, avocate, militante des droits de l'homme, explique que c'est pour son discours, ses pratiques et son programme pro-femme qu'elle a rejoint le HDP.
Sur les listes du HDP, presque la moitié des candidats sont des femmes. C'est unique. Je me retrouve aussi dans leurs propositions concrètes, comme celle d'offrir une protection sociale ou une retraite aux femmes au foyer. De plus, le HDP est le seul parti à avoir imposé une coprésidence homme-femme au niveau national et municipal. J'ai eu envie d'y contribuer, évidemment, d'aider ce parti à franchir le barrage électoral qui est un véritable affront à la démocratie.
En deuxième position sur la liste du HDP dans sa circonscription, Filiz Kesteredioğlu n'est pourtant pas assurée d'entrer au Parlement. Car les législatives en Turquie se jouent à la proportionnelle, mais une proportionnelle assortie d'un seuil électoral parmi les plus élevés du monde. Même si cette candidate est élue à Istanbul, il faut aussi que le HDP récolte au moins 10% des suffrages au niveau national pour que ce parti soit inclus dans la répartition des sièges. Or, le HDP n'a jamais dépassé ce score, même s'il en est très proche. À l'élection présidentielle d'août 2014, son candidat a remporté 9,7% des voix. Pour les militants du parti comme Bermal Kutçuk, chaque voix compte. Bien qu'elle soit en période d'examen à la fac, cette étudiante en sociologie bat le pavé tous les jours pour convaincre les électeurs.
Beaucoup de gens ont des préjugés sur le parti. Ils le considèrent comme un parti de Kurdes ou même comme une formation séparatiste, liée à un mouvement terroriste, entre guillemets. Ces préjugés sont véhiculés par les grands médias. Mais c'est notre rôle d'expliquer sans relâche, sur le terrain, qui nous sommes réellement et ce que nous proposons.
Si le HDP souffre de ce que sa militante appelle des préjugés, c'est que cette formation est issue du mouvement politique kurde. Et bien qu'elle rejette la violence, elle est ouvertement soutenue par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, une organisation armée que l'État turc considère comme un groupe terroriste. Pour obtenir des députés jusqu'à cette élection, le HDP et ses prédécesseurs pro-kurdes présentaient donc des candidats indépendants, non assujettis au seuil électoral, qui formaient, une fois élus, un petit groupe parlementaire. Pour la première fois, le HDP se présente en tant que parti. Il joue donc quitte ou double. Le politologue Ilter Turan analyse cette décision.
Il est vrai que le HDP a encore l'image d'un parti régional et ethnique. Jusqu'à ce jour, il a surtout gagné des voix dans les régions de l'Est et du Sud-Est à majorité kurde, ainsi que dans les grandes villes où se sont installées des populations issues de ces régions. Désormais, le HDP a l'ambition d'être un parti de toute la Turquie et d'élargir son électorat en représentant tous les exclus de la politique. Cette stratégie est indispensable si le HDP veut devenir un grand parti. De même qu'il est parfaitement normal, pour une formation qui souhaite devenir un acteur comme un autre de la vie politique, de se présenter aux législatives en tant que parti sous ses propres couleurs.
Dans son programme, le HDP met en avant une série de propositions fortes sur des sujets longtemps tabous. Il promet d'en finir avec l'État tout-puissant et centralisateur et d'assurer l'autonomie des collectivités locales, d'abolir les cours de religion obligatoires dans les écoles, le service militaire obligatoire ou encore la censure d'Internet. Beaucoup de ces propositions concernent les jeunes et les femmes. Soit Atay, un militant de 24 ans, dit s'y retrouver entièrement.
Que le HDP dépasse ou non le seuil électoral, je pense qu'il aura réussi à avoir un impact en Turquie. Il a permis à des idées qu'on n'évoquait pas autrefois d'être maintenant débattues à la télévision. Il a permis surtout à des jeunes turcs comme moi de dire « je soutiens le HDP » sans en avoir honte. Cela fait réfléchir dans mon entourage et cela a fait réfléchir beaucoup de gens en Turquie.
Pour ce jeune homme qui, selon ses mots, n'est ni kurde, ni défavorisé, ni discriminé, le HDP incarne l'espoir d'une politique différente.
Depuis mon enfance, j'ai toujours connu le même parti et le même homme au pouvoir. Avec mes amis, on plaisante en disant que nous sommes une génération malchanceuse. Mais beaucoup de jeunes en ont assez d'être enfermés dans des moules trop étroits. On en a assez de ces oppositions stériles entre laïcs et conservateurs, entre turcs et kurdes. Ce que j'aime avec le HDP, c'est qu'il nous force à élargir notre vision de la politique.
Reste à savoir si cet espoir se traduira dans les urnes le 7 juin. À cause du seuil électoral, le HDP a pris un risque. S'il ne dépasse pas 10% au niveau national, il n'aura aucun député sur 550 sièges au nouveau Parlement, contre 29 actuellement. Les sièges perdus iraient alors aux trois autres grands partis, surtout à l'AKP, c'est-à-dire au parti fondé par l'actuel président Recep Tayyip Erdogan, lequel rêve de transformer, si le score de l'AKP le lui permet, l'actuel régime parlementaire en un régime présidentiel.
À Istanbul, le reportage d'Anne Andlauer. Les énergies renouvelables ne sont pas seulement un enjeu majeur pour l'avenir de la planète, elles représentent également un important gisement d'emplois. Sauf que cette croissance verte ne profite pas à tout le monde. Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron, directeur de notre site partenaire myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors au niveau mondial, tout d'abord, ces énergies nouvelles représentent un gisement d'emplois très important.
Effectivement, les énergies vertes comme l'éolien, les biocarburants, le solaire, la biomasse, l'hydroélectricité et l'hydrolien ont évidemment besoin de ressources naturelles, mais pour se développer, elles mobilisent également des ressources humaines dans la recherche, l'industrie et la maintenance. L'IRENA, qui est l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, vient ainsi de calculer que 7,7 millions de personnes dans le monde travaillent dans ce secteur. Bon, c'est encore peu, mais ce développement est extrêmement rapide. Rien que sur les deux années 2013 et 2014, 1,65 million d'emplois ont été créés, une augmentation de 18%.
Alors, quelles sont les énergies vertes les plus créatrices d'emplois ?
C'est en tête le photovoltaïque, autrement dit l'énergie solaire, qui donne du travail à 2,5 millions de personnes. Puis les biocarburants, avec 1,8 million d'emplois. Viennent ensuite les centrales hydroélectriques, avec 1,5 million. L'éolien, avec 1 million. Suivent la biomasse, la géothermie, le biogaz et l'énergie hydraulique générée par la mer.
Sauf que, Daniel, ce dynamisme ne profite donc pas à tous.
Non, et c'est là que le bas blesse pour l'Europe. C'est la Chine, premier pollueur mondial, il faut le rappeler, qui est aussi le premier employeur dans le secteur des énergies renouvelables, avec 3,4 millions d'emplois. Un paradoxe qui s'explique par le fait que 70% des panneaux solaires produits dans le monde sont d'origine chinoise. Cette fabrication n'a en soi rien de vert, mais la Chine exporte des capteurs photovoltaïques qui permettront de réduire la pollution ailleurs. Après la Chine, il y a le Brésil. C'est le deuxième plus gros employeur dans les énergies renouvelables avec 934 000 emplois grâce aux biocarburants. Le géant latino-américain est le premier exploitateur au monde de ce pétrole qualifié de vert, mais issu en réalité d'une monoculture intensive. Les États-Unis sont sur la troisième marche du podium de l'emploi généré par les énergies renouvelables. Plus de 720 000 emplois en 2014, soit une hausse annuelle de 16%.
Et l'Europe donc ?
Alors l'Europe est la seule à avoir enregistré en 2014 un repli de 4% des emplois dans les énergies renouvelables sur un total de 1,2 million d'emplois. La chute a été particulièrement importante dans le photovoltaïque. Ce repli s'explique par la levée des mesures protectionnistes en Allemagne sur les panneaux solaires chinois. Cela a engendré l'an dernier de nombreuses faillites de fabricants de panneaux solaires outre-Rhin et des suppressions de postes peu qualifiés. En outre, des milliers d'emplois n'auraient pas été pourvus en 2014 du fait de la difficulté de trouver les compétences souvent très pointues requises pour développer les énergies renouvelables.
Quel est le pays où la demande en emploi est la plus importante, Daniel ?
C'est sans surprise l'Allemagne. Malgré ses déboires dans le solaire, elle emploie près de 380 000 personnes dans le domaine des énergies renouvelables, soit plus du double qu'en France. Viennent ensuite le Royaume-Uni, l'Italie, puis l'Espagne. Au total, ces quatre pays représentent 70% des emplois verts en Europe.
Et pour la France ?
Avec 176 000 personnes, la France fait partie du top 10 mondial des pays qui emploient le plus pour développer les énergies vertes. Mais l'emploi dans ce secteur stagne depuis 2013. Et l'IRENA ne prévoit aucune amélioration pour l'année à venir du fait d'investissements insuffisants et des multiples freins administratifs. Pour l'éolien notamment.
Est-ce la seule raison ?
Non, il y a également le problème de l'effondrement des quotas carbone. Ce système d'échange de droits à polluer entre les entreprises les plus polluantes a été lancé il y a 10 ans pour atteindre les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Mais le système s'est enrayé du fait des excès d'allocation de ces droits. Cela a tellement fait chuter les prix que les usines et entreprises préfèrent payer ces droits plutôt que de réduire leurs émissions. Bruxelles a certes décidé de réduire progressivement les quotas de droits, mais plusieurs pays, comme la France et l'Allemagne, souhaitent aller plus vite, étant convaincus que cela freine les énergies renouvelables et l'emploi.
Mais l'emploi ne dépend-il pas également de nouvelles sources d'énergie renouvelable ?
Certainement. Ainsi, la France mise sur de nouvelles sources d'énergie, notamment l'hydrolien qui utilise l'énergie renouvelable des courants marins liés aux marées. Depuis la construction dans les années 60 de l'usine marémotrice de la Rance, près de Dinard, cette technologie a fait d'énormes progrès. Et la France occupe une position unique puisqu'elle dispose de 2 gisements énergétiques hydroliens parmi les plus importants d'Europe, situés à l'ouest de la pointe du Cotentin et près de l'île d'Ouessant, avec potentiellement de nombreux emplois à la clé.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine dans Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
On est encore loin des enfants de troupes, mais en Estonie, les adolescents sont familiarisés très tôt avec l'univers de l'armée. La majorité des écoles proposent en effet à leurs élèves des cours de défense. Tradition qui remonte à la période de l'entre-deux-guerres, quand ces cours étaient obligatoires, et il pourrait bien d'ailleurs le redevenir, conséquence du conflit en Ukraine et des craintes ressenties dans les pays baltes. Reportage à Tallinn de Marielle Vituro.
Aujourd'hui, nous avons eu un cours sur la cartographie, savoir lire une carte, travailler avec des coordonnées géographiques.
Mickaël est en classe de 11e, ce qui correspond à la première année du lycée en France. Comme tous ses camarades, il a désormais des cours de défense et c'est un militaire réserviste, le major Heikki Arikö, qui les assure plusieurs fois par semaine dans la grande salle de l'école Jakob Westholm au centre de Tallinn. Les cours sont à la fois théoriques et pratiques, Mickaël.
Il y a deux semaines, nous avons participé à un camp d'entraînement. Nous étions dans la forêt et pendant deux jours, nous avons appris à tirer, à nous déplacer, à monter un camp, faire du feu. J'étais épuisé après ces deux jours, mais c'était vraiment bien.
Rando Kustik est le principal de cette école. Ses cours sont pour lui nécessaires.
Je pense que chaque élève en Estonie doit connaître la manière dont fonctionne un État et son gouvernement. Les élèves ne passent pas leur temps à courir dans la forêt comme des soldats. Il s'agit aussi d'acquérir des connaissances sur leur pays.
Ce lycée du centre de Tallinn offre un enseignement renforcé en musique, mais aussi en défense, le principal de l'école.
Nous proposons aux élèves une formation de secouriste de base. Nous parlons de l'organisation de la police, du système pénitentiaire, tout ça pour donner une vision globale du système de défense estonien.
Pour le jeune Karl, qui envisage l'option longue du service militaire de 11 mois au lieu de 8 dans une unité d'élite, ces cours ne sont pas uniquement intéressants, ils sont aussi primordiaux.
Le danger peut toujours survenir d'un moment à l'autre. Il faut donc être préparé. Avoir ce type de connaissances est tout à fait utile. Si un jour l'apocalypse ou l'invasion russe nous tombe dessus, nous saurons comment réagir.
Au cœur de ce dispositif, la Ligue de Défense, une organisation paramilitaire qui va fêter ses 97 ans à la fin de l'année. Elle compte aujourd'hui 21 000 volontaires. Et depuis le début de la crise en Ukraine, le nombre d'adhésions a triplé. C'est un pilier du système de défense en Estonie, comme le souligne le major Heikki Arikö.
En Estonie, il y a deux organisations de défense, l'armée et la Ligue de défense. Cette dernière ne compte que des volontaires qui s'entraînent quelques jours par mois. Aujourd'hui, il y a un véritable regain d'intérêt pour cette Ligue, en raison de la situation géopolitique actuelle et des dangers. De plus en plus de gens veulent protéger leur maison et surtout leur famille.
Kalev Stoicescu est analyste à ICDS, un think tank estonien spécialisé dans les questions de défense. Il a assuré il y a quelque temps des cours dans les écoles.
On a parlé aussi des forces armées d'Estonie, comment s'est organisé l'OTAN par exemple, comment la Russie peut regarder la situation, comment nous regardons la situation, mais aussi par exemple les Américains et nos autres alliés à Paris, à Londres, à Berlin, etc.
En raison de la situation géopolitique, le gouvernement estonien envisage de rendre ses cours obligatoires pour renforcer la sécurité du pays dans son ensemble. Mais ces cours d'éducation civique au sens large ont un autre avantage. Les jeunes Estoniens viennent d'acquérir le droit de vote à 16 ans pour les élections locales. Ce type de connaissances permettra d'éclairer leur choix.
En Estonie, le reportage de Marielle Vituro. On se retrouve demain dès 16h40 pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. Retrouvez-nous également sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.